Alors, une tradition dans les, quand on donne un enseignement, on prend refuge dans le Bouddha, le Dhamma et le Sangha. Les trois refuges. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Nous voilà à la fin d'une journée de méditation. Quel est le résultat? Quelle est l'expérience à la fin de la journée? Soulagement? Réalisation qu'on a survécu sans avoir un deuxième repas l'après-midi? Sans s'évanouir ou sans perdre ses forces? Une retraite, même courte, est un temps précieux, comme vous le savez tous, car c'est une période dans votre vie où vous avez décidé d'arrêter le courant fou du monde dans lequel on vit. C'est un courant fou en ce sens qu'il est vraiment hors contrôle quelque part. J'ai écouté certains d'entre vous aujourd'hui et une des choses qui me paraît extrêmement commune à tous, la façon dont on se trouve dans la vie, que ce soit dans le travail ou dans la famille ou avec nous-mêmes, il y a un manque de paix, hein? On se trouve avec à chercher la paix, un manque de satisfaction, un manque de bonheur quelque part. Mais ce qui me surprend toujours le plus quand je sors du monastère, c'est la négativité que l'on peut avoir envers soi-même. C'est l'image négative que l'on a de soi-même. Je la connais bien parce que je suis passée par là moi-même. Mais c'est une chose que je connais trop bien pour savoir qu'il est temps que vous sachiez que ça ne sert à rien. Non seulement ça ne sert à rien, mais ça vous amène dans votre vie une qualité de vie qui est tellement diminuée qu'il faut vraiment faire rapidement le pas pour lâcher cette perception négative que vous avez de vous-même, si vous avez une perception négative. Vous savez, on pense quelquefois, oh c'est moi, oh c'est mon problème. Il y a des histoires dans le bouddhisme, dans les poèmes des femmes qui ont été complètement libérées, qui s'appellent le Terigata. Il y a deux recueils de poèmes qui datent de 25 siècles. Un recueil des moines bouddhistes qui ont été complètement libérés et un recueil de non-bouddhistes qui ont été complètement libérés. Et même toutes ces histoires nous racontent cet état, cette condition d'une personne qui est éveillée. Comment elle est arrivée à l'éveil. Ce qui est extraordinaire, c'est que toutes ces histoires racontent la tentation, c'est-à-dire la force de tentation qui s'appelle Mara dans le bouddhisme. Mara dans le bouddhisme, ça correspond un peu au Satan chrétien, vous savez, celui qui vous tente constamment dans les mauvaises, pour vous faire des choses que vous allez regretter plus tard. Et dans le bouddhisme, il y a un personnage qui s'appelle Mara. Et c'est intéressant, Mara signifie, veut dire éternel. Quand on parle d'une entité éternelle ou d'une réalité éternelle. Mara signifie la mort. Je vous ai déjà parlé, je ne sais pas si c'est à ce groupe ou peut-être lundi dernier, je ne sais plus. Ceux qui sont attentifs ne meurent jamais, et ceux qui sont inattentifs, non vigilants, non conscients, sont déjà comme s'ils étaient morts. C'est un message quand même puissant, hein ? Alors, le Bouddha nous dit toujours, ne croyez pas ce que je dis, vérifiez vous-même. Ça nous laisse beaucoup d'espace pour comprendre nous-mêmes ce dont il parle. Et Mara, donc, quand ces nonnes sont, ces nonnes bouddhistes sont atteints déjà donc l'éveil suprême, hein, Mara arrive et leur dit, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Regarde, tu es jolie, jeune. Pourquoi tu mènes une vie pareille ? Alors que tu pourrais avoir du confort, tu pourrais accumuler les mérites, le bonheur, tu pourrais faire des tas de choses que tu ne peux pas faire maintenant, émaciée, renonçante, solitaire, toute seule sur un rocher. Mais qu'est-ce que tu fabriques là ? Nous dit Mara. Je vous raconte cette histoire pour vous dire que si au cas où vous soyez tenté par Mara, même les nonnes qui ont été complètement éveillées étaient encore tentées par Mara, ou en tout cas Mara essayait de les tenter, c'est-à-dire de leur faire perdre confiance, de leur faire perdre la joie de leur réalisation. Mara essayait, mais la nonne, il y a des poèmes très connus, il y en a une, où Mara lui dit, qu'est-ce que tu fais, tu pourrais te marier, etc., tu pourrais avoir une vie beaucoup plus agréable. Et la nonne répond, Mara, je te connais. Je connais les limites du plaisir des sens. Je connais ça. Va-t'en. Et Mara, chaque fois dans les histoires, elle dit, oh zut, alors j'ai raté mon coup. Un peu, j'élabore un peu dans le... C'est vraiment ça. Oh non, alors elle me connaît, j'ai raté mon truc. Donc, le devil, comme on dit en anglais, hein, Mara, est dans le bouddhisme, est toujours représenté comme un personnage un peu stupide, qui essaie vraiment de tenter, Mara a tenté le Bouddha pendant 45 ans. Du moment de son éveil à sa mort, Mara a essayé de dire des tas de choses au Bouddha. Mais pourquoi tu m'en perds maintenant ? Tu as tout fait, tu as ton sangha, tu as resté illuminé, etc. Toujours le Bouddha dit, je te connais Mara, je sais quand je dois faire. Donc cette force de Mara, hein, c'est intéressant quand je lisais des livres, j'ai lu des textes soufis. Et dans un des maîtres soufis, j'aime bien cette façon de voir le Mara. Il dit, si vous voulez connaître, if you want to know the devil, si vous voulez connaître le diable, vous n'avez pas à aller très loin, regardez-vous vous-même. Look at yourself. Et moi, quand j'ai lu ça, je me suis rendu compte que Mara a une représentation qui peut être très agréable. Moi, quand je me regarde moi-même, bon, quelquefois, autrefois, je me disais c'était négatif ou positif, mais il y avait souvent quand même un empaquetage, c'est très, très agréable. C'est pas tout mauvais, le Mara n'était pas du tout désagréable. C'est un aspect de nous-mêmes qu'il est difficile de discerner parce que c'est très mélangé avec des choses extrêmement agréables, extrêmement plaisantes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas si facile à discerner où est Mara, hein, et où est comment se libérer de Mara. D'abord, il faut reconnaître que Mara n'est pas particulièrement utile dans notre vie. Et ça, c'est peut-être le plus difficile. Donc quand on parle de Mara dans le bouddhisme, on parle de cette force de destruction, de cette force négative, de cette force qui nous tente constamment pour aller, qui nous tire vers le bas, qui nous tire vers la force de gravité, vers le bas, dans les choses les plus qui nous tire vers un monde d'habitude, un monde de un monde de misère quelque part, hein, quand on parle tire vers le bas, c'est-à-dire un monde sens de gravité où on n'a pas vraiment le contrôle de ses habitudes, on est vraiment prisonnier de ses habitudes qui nous tirent vers le bas. Fort de gravité, les choses tombent sans effort. Donc la voie, le chemin de l'éveil demande un effort, il faut être intéressé. C'est pas une chose qui vous tombe dessus comme qui vous tombe du ciel. Hein? C'est ce travail que vous faites là dans la pratique, vous vous rendez compte, il y a un effort important à faire, ne serait-ce que pour rester éveillé. Ne serait-ce que pour rester vraiment vigilant et attentif à ce qui se passe. Donc, si vous pensez que vous avez des problèmes avec Mara ou les forces négatives de votre esprit, rappelez-vous, vous n'êtes pas toute seule. Même les illuminés du Bouddha Mara était encore en train de leur dire non, tu serais beaucoup mieux ignorante. Deluded, comment dire en anglais, hein? Il est important de se rendre compte de cela, hein, parce que nous vivons dans un monde qui est tellement personnel, tellement égoïque, tellement égocentrique, hein, à un certain niveau, c'est tout par rapport à moi, tout est par rapport à moi. Ce qui me surprend toujours quand j'entends des gens me parler d'eux-mêmes, c'est ce monde tellement fermé, dans lequel la souffrance est tellement fermée dedans, enfermée dans cette souffrance. Hein. Pas nécessaire. Cette souffrance, elle est universelle. Elle est très personnelle. Évidemment, chacun va l'expérimenter d'une manière particulière par rapport à son conditionnement, à son enfance, à son éducation, au pays dans lequel il vit, les parents qu'ils ont eus, etc. Hein. La naissance que l'on a et toutes ces choses-là. Mais d'une certaine manière, il faut toujours se rappeler que notre esprit n'est pas séparé des autres. Il partage avec tous les êtres humains des choses beaucoup plus communes que différentes. Parce que l'ego, ce que j'appelle moi, si vraiment vous l'observez, comme je l'ai observé pendant des années, c'est une force qui sépare. Et ce serait utile pour vous de vous rendre compte que quand vous avez ce sentiment d'être seul, d'être abandonné, d'être différent, d'être moi seulement, d'être victime, d'être séparé des autres, hein, quand il y a une séparation des autres, c'est qu'il y a en général une identification au moi, ce qu'appelle cette entité qui est illusoire quelque part. Une identité, quand ce moi, c'est ma personnalité, c'est moi, c'est je, c'est... Tout ça n'a rien de mal. Tout ça, ce sont des outils qui nous aident à vivre quotidiennement. Mais si on est identifié à certains aspects de cette personnalité, elle nous emprisonne dans des petites boîtes comme ça, on est emprisonné. Je suis comme ceci, je ne peux rien faire d'autre. C'est ma faute. Comme si vous portiez la faute en vous-même de grandes lignées d'ancêtres derrière vous, hein, de toutes les générations qui viennent avant vous, qui ont donné, qui ont fait ce que vous êtes aujourd'hui et maintenant. Donc il faut déjà ouvrir un peu son esprit au fait que ce moi, il n'y a pas à le juger, il n'y a pas à le critiquer, il n'y a rien à faire avec, simplement à reconnaître ses limites, à reconnaître son utilité, à reconnaître sa nécessité quand on a besoin de ce jeu conventionnellement. On a tous un nom différent. Si j'appelle Pauline Michel, elle ne comprendra pas ce que je veux dire. Ou Robert, si j'appelle Pauline Robert, elle ne me rappellera pas sans doute. Donc au niveau conventionnel, la réalité conventionnelle, on est obligé de parler d'entité particulière, hein. Si vous dis non, vous êtes de l'Amérique du Sud, non, vous ne comprenez pas, non, je suis de la Suisse française, de Suisse allemande, etc. Donc, à un certain niveau, cette personnalité que l'on a est telle qu'elle est, Elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est telle qu'elle est, et elle nous aide à vivre dans le monde conditionné de tous les jours, monde quotidien. Mais cet attachement à la personnalité est en fait un des premiers obstacles majeurs sur la voie de la libération. Il y a trois obstacles. Trois premiers obstacles. C'est une croyance dans la vue, c'est pas toujours facile, personality view, on dit en anglais, c'est-à-dire la vue, la vision des choses au travers de la personnalité. C'est-à-dire, c'est moi, je suis comme ceci, je suis comme cela. Bon, ça peut être vrai d'un instant à un autre, mais ce n'est pas une personnalité qui est permanente, on n'est pas toujours comme ça. L'attachement à la personnalité, la personality view, c'est de connaître le monde, d'avoir une vision du monde uniquement au travers de ce je et son histoire. Hein? Alors vous allez me dire, mais où je vois le monde, je vais voir le monde à travers quoi? Si je ne vois pas au travers de ma personnalité. Hein? Eh bien, je ne pense pas que vous seriez dans cette salle aujourd'hui si vous n'aviez pas déjà vu que le monde dans lequel vous êtes a ses limites, que la personnalité avec laquelle vous vivez n'est peut-être pas aussi idéale qu'on vous fait croire. Mais l'idée, quand on lâche prise de la personality view, de la vue au travers de la personnalité, on n'a rien à faire. On n'est pas là. Il n'y a rien à faire pour lâcher cette vision erronée, qui n'est pas ce qu'on appelle la vue juste dans le bouddhisme. Cette vision erronée, il n'y a rien à faire d'autre que de l'observer et de comprendre. Cette personnalité, elle vous amène beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de moments agréables. Et aussi, elle a son opposé, beaucoup d'ombre, beaucoup de chagrin, beaucoup de misère et beaucoup d'insatisfaction. N'est-ce pas? Il y a tout un mélange de choses. Le deuxième obstacle, c'est l'attachement au fait que, je ne pense pas que ce soit le problème de beaucoup d'Occidentaux, mais enfin ça peut arriver, que ce qui est la libération de l'esprit vient avec l'attachement à une chose extérieure, comme si en saluant des centaines de fois, on va se libérer. Ou bien si j'allume ma bougie tous les jours, je vais aller mieux. Ou bien si je prie une entité extérieure à moi-même, les choses vont s'améliorer. Ou bien si je suis attaché à un gourou ou à un maître, de penser que cette personne va faire quelque chose pour moi ou va me libérer. Hein? Ou bien une tradition même à la limite, hein, le bouddhisme par exemple, de croire que si je prie le Bouddha tous les jours, je vais me libérer. Non, non. Le Bouddha nous dit toujours, la libération vient de la transformation intérieure, uniquement. Donc on appelle ça attachement au rite et au rituel. Hein? Attachement à la personality view, la vue de la personnalité, attachement au rite et rituel. Et on a beaucoup de rites et rituels dans notre vie, hein, qui ne sont pas nécessairement religieux. Hein? La cigarette, c'est un rituel. Hein? Boire un coup, c'est un rituel. Écouter la musique peut être un rituel. Hein? Mais ils ne sont pas mauvais en soi, ce n'est pas une chose mauvaise en soi. Mais ça fait partie de ces habitudes, peut-être, qui sont difficiles à lâcher, mais qui vous donnent l'illusion qu'en en étant attaché à ces choses-là, en étant identifié à ces choses-là, ça nous soulage. Et momentanément, c'est vrai qu'on peut être soulagé, on peut se sentir mieux. Donc ce sont des rituels, disons, mondains de la vie ordinaire. Si je n'ai pas mon repas de midi, je meurs. Nous avons tous des rituels dans la vie quotidienne. Si je n'ai pas mon bain une fois par de temps en temps, je ne peux pas fonctionner. Ce sont des comment on pourrait dire, ce sont des croyances en quelque sorte. Hein. On parle de croyances. Et le bouddhisme n'est pas un chemin de croyance. On n'est pas là pour croire aveuglément une chose. On est là dans la pratique pour réaliser soi-même la voie de l'éveil. Le troisième obstacle, parce que je suis partie sur les trois premiers obstacles, c'est l'attachement au doute, doute de soi. Combien parmi vous doutent de vous-même ? Hein ? Le doute de soi. Self-doubt en anglais, on dit. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas vraiment fait l'expérience d'une chose, qu'on ne la connaît pas profondément, on ne la connaît pas encore et on peut douter. C'est pour ça que le chemin de cette voie-là, est très pragmatique. Elle vous demande vraiment d'être personnellement engagé dans ce que vous faites. Hein. Ce n'est pas une voie de dévotion où si vous priez autant, vous faites tant de prières par jour, vous allez arriver à un but particulier. C'est certain que prier, avoir une bonne prière dans la tête, dans le cœur, hein, ça ne fait de mal à personne. Les prières, quelquefois, sont même efficaces. D'accord ? Donc, ce n'est pas que la prière est mauvaise, mais la voie de l'éveil, la voie de la réalisation, la voie de la libération, hein, est une voie qui passe par la réalisation directe, l'expérience directe de l'esprit et du corps. Et dans cet esprit et dans ce corps, on se rend compte au travers de la méditation que tout change, tout bouge, tout est un flot continu d'événements, de pensées, de perceptions, d'idées. Hein. Je pense à ce que je vais faire demain, je me souviens de ce que j'ai fait hier. Ça s'enchaîne sur une histoire qui s'est passée il y a quelques dizaines d'années. Et puis on revient à ce qu'on va faire le lendemain. Hein, notre esprit est constamment en train de gamberger, oui, de gamberger, hein, à droite, à gauche, hein, dans tous les sens. Et on est... Tant qu'on n'a pas vraiment l'expérience, la connaissance claire et approfondie de ce qu'on appelle les trois marques de l'existence, hein, il y a trois marques qui caractérise tous les événements, le Bouddha nous dit, tous les événements de notre vie sont caractérisés par trois qualités. À vous de voir maintenant. Insatisfaction, impermanence et non-soi. Insatisfaction. Quand on a connu l'esprit en paix, tout ce qui bouge dans notre esprit devient, entre guillemets, insatisfaisant. Mais la chose la plus insatisfaisante, c'est le fait qu'on y croit à ces choses qui bougent. C'est le fait qu'on soit attaché à ces choses qui bougent. L'esprit bouge constamment. La vie est une chose c'est une rivière qui coule sans arrêt. On ne peut pas l'arrêter, peut-être. Mais par contre, on n'est pas obligé de se mettre dans une petite mare quelque part au milieu du fleuve et rester là à se baigner dans l'eau stagnante. Hein ? Vous savez ce qui se passe quand l'eau est stagnante. C'est pas très beau tout le temps. Ça commence à moisir un peu. Ça commence à pourrir. Les choses meurent dans une eau stagnante. Hein. C'est pas très agréable. Si vous imaginez votre esprit comme une rivière qui coule, on n'a pas envie, la vie qui passe par votre esprit et votre corps et votre mental, c'est comme un fleuve qui coule. Si on oublie l'impermanence, on est comme dans un petit coin de la rivière là qui est coincé entre des rochers, hein, qui n'a pas beaucoup d'oxygénation, hein, qui n'est pas très vivant. Donc ces trois caractéristiques qui caractérisent les événements, tous les phénomènes de la vie. À nouveau, je répète, ce n'est pas un enseignement en lequel il faut croire, mais un enseignement que vous devez vous-même réaliser. Je n'ai encore jamais vu une chose permanente si ce n'est l'impermanence. comme disaient certains enseignants. La seule chose qui est permanente, c'est que tout est impermanent. Et lorsque, ça fait partie de ce que j'appelais la vision juste des choses, qui est le fondement de la voie, le fondement du chemin de l'éveil. La vision juste, si on a une vision erronée, tout dans notre vie devient très bancal. Tout dans notre vie devient très distorted, je ne sais pas comment on dit ça en français. Distorted. Il n'y a pas un anglais là, anglais hein,
déformé.
Hein?
Déformé.
Tout est déformé. Donc, une grande partie de notre méditation, c'est de voir ces déformations de notre esprit. On peut avoir une vie très agréable, on a énormément de bénédictions dans notre vie, on peut vivre d'une manière extrêmement positive et pleine de bénédictions. Et l'esprit, si vous écoutez, il est encore en train de se plaindre. Regardez ça, il est encore en train de se plaindre, il est encore en train de dire que les choses ne sont pas assez bonnes, les choses. Alors, il n'y a rien de mal à cela, mais il faut se rendre compte de la souffrance de cet esprit qui est constamment insatisfait. Constamment insatisfait. Comment pouvons-nous être heureuses si on est constamment en train de ressasser des pensées qui vous forcent à croire que la vie est constamment insatisfaisante? L'ignorance est insatisfaisante, mais la vie elle-même, elle est telle qu'elle est. La bêtise humaine est insatisfaisante, mais l'être humain, il est tel qu'il est. La colère est insatisfaisante, mais l'être humain qui est en colère, il est tel qu'il est. Donc, dans la voie de libération, on apprend, on vous donne tous les outils possibles pour commencer à lâcher ces entraves, à lâcher ces obstacles, lâcher l'idée que cette personnalité que je suis, que je pense être, elle nous donne beaucoup de satisfaction à un certain niveau, mais ce n'est pas notre véritable nature. Alors quelle est ma véritable nature? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une véritable nature? T'as trouvé personne? C'est gênant quand même, hein, de trouver personne qui a une véritable nature. Et si on partageait la véritable nature avec tous les êtres humains, ça serait pas drôle, je serais pas différente des autres. Qui a envie d'être juste un amalgame de complètement identique à tout le monde? Et si on vous disait que la véritable nature, elle est partagée par tous les êtres? Il n'y a pas de personnalité à l'intérieur, il n'y a pas besoin d'une personnalité. C'est pour ça que nous sommes très attachés à cette idée d'être moi permanent, parce que il y a ce désir d'être différent, d'être spécial, d'être unique, d'être moi, d'être... Et ce désir-là, il crée beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a la jalousie, il y a l'envie, il y a le désir de repousser les gens qu'on n'aime pas, il y a le désir de compétition, un désir d'être meilleur, un désir de détruire ceux qui sont meilleurs que nous, etc. C'est tout à des niveaux subtils, évidemment. Mais si on regarde intérieurement soi-même, on voit bien que tous ces états qui sont là. On voit quelqu'un qui fait mieux que nous. Rappelez-vous les états, la réaction que vous avez eue. Est-ce qu'elle était vraiment joyeuse par rapport à la personne qui faisait mieux que vous, ou bien est-ce qu'il y avait de l'envie et de la jalousie, par exemple? Donc, ces différences que crée la vision, les choses vues au travers de l'identité à soi, et ne sont pas heureuses, ne sont pas plaisantes. Donc dans le bouddhisme, on reconnaît que tous les êtres humains cherchent le bonheur, tous les êtres humains cherchent à se sentir bien, à se sentir dans le bien-être. Tous les êtres, on est tous pareils. Pensez pas que vous soyez uniques, on est tous dans le même sac. Seulement la façon dont on le fait est souvent a souvent une ombre quelque part. Hein. Pourquoi ? Parce que ce bonheur, il est dépendant de certaines choses. Tant qu'on a un bonheur qui est dépendant de ceci ou dépendant de cela, il est impermanent. Donc quand ceci et cela disparaissent, hop, notre bonheur, nos soutiens pour notre cause de bonheur disparaît avec. On a une relation, par exemple, très agréable avec quelqu'un. On est très amoureux de quelqu'un, peut-être. Hein, et ça nous amène un très grand bonheur. Et puis tout à coup, cette personne décide de partir avec quelqu'un d'autre. On se dit, pourquoi moi ? Donc la cause de ce bonheur, si votre bonheur était dépendant de cette personne, quand cette personne disparaît, vous sentez détruite. Vous avez le sentiment que vous n'existez plus, que votre bonheur a complètement disparu. Et la vie nous apprend petit à petit à comprendre que ces bonheurs qui dépendent de causes impermanentes n'est pas stable. Non seulement il n'est pas stable, mais il n'est pas fiable. Et il n'est pas le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est vraiment d'avoir le bonheur à l'intérieur de soi-même, dans le cœur. Et quoi qu'il se passe, il ne disparaît pas. Ah, quel soulagement, hein ? Quoi qu'il se passe, ce bonheur n'est pas entravé. Ça ne serait pas formidable si on trouvait ce bonheur, hein ? Le vrai bonheur. Pas un bonheur qui dépend de si j'ai réussi à quelque chose, si j'ai échoué. Hein. Évidemment, je vous parle d'un niveau de pratique hein, assez avancé quelque part. Hein. Mais ce n'est pas si avancé que ça. On a un manque de confiance à voir que ce bonheur, il est déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Il est déjà là. La paix est déjà là. La compréhension est déjà là. L'intelligence du cœur est déjà là. On n'a pas à la chercher à l'extérieur. L'extérieur peut nous aider, les livres, les cassettes, les enseignants, les situations de vie, etc. peuvent nous aider. Hein. Mais vraiment, le véritable, tout ce que l'on cherche est déjà avec nous-mêmes. La seule chose qui nous empêche de le voir, c'est que nous sommes souvent préoccupés par nous avons des préoccupations qui peuvent amener beaucoup de confusion dans l'esprit. Hein? Préoccupations qui peuvent vraiment nous donner l'idée que la vie est extrêmement complexe, les choses sont impossibles, mes amis ne m'aiment pas, mes parents m'ont abandonné, mon boss, mon patron, il est abominable, etc. etc. Hein? Au lieu de revenir dans le cœur, et de comprendre que nous partageons tous le désir d'être heureux et nous partageons tous cette vision des choses au travers de je-personnalité, c'est-à-dire ce que je veux, ce que je désire pour moi, hein, pour survivre, pour un instinct de survie, hein, qui est une chose très naturelle, le monde entier tourne hein, avec cet instinct de survie, procréation, manger, faire des bébés, hein. Tous les animaux font ça, vous avez remarqué, les êtres humains la même chose, c'est on crée, on recrée, c'est naturel, c'est une chose complètement naturelle, hein. Il n'y a rien de mal à ça, mais le Bouddha nous fait comprendre que nous pouvons réaliser une autre vision des choses. Où est-ce qu'elle amène cette vision des choses ? C'est pas la peine de prévoir à l'avance, mais c'est une vision des choses qui vous fait comprendre que la souffrance n'est pas une chose naturelle. La souffrance n'est pas naturelle. La souffrance de l'être humain, hein, qui peut penser, qui peut réfléchir, qui peut comprendre, qui a une intelligence hein, particulière, qui se rappelle du passé, qui peut anticiper dans le futur, qui peut prévoir, qui peut organiser, qui peut... Hein, on a tout ce qu'il faut pour comprendre que la souffrance de l'esprit n'est pas nécessaire pour vivre. Non seulement elle n'est pas nécessaire, mais elle peut nous détruire, cette souffrance. Donc, il est très important de la comprendre. Cette souffrance, elle peut détruire. Vous voyez combien de personnes se maltraitent ou bien se font du mal ou n'ont pas encore le sens vraiment de ce qui est destructif. Et sont pris dans un système, dans un processus de destruction dans lequel ils ne peuvent pas revenir quelquefois. Hein? Donc il est important de comprendre, d'avoir confiance dans le fait que nous avons la capacité, nous avons tous la capacité de s'éveiller à ces habitudes destructrices. Nous avons tous la force de s'éveiller à l'illusion de notre mental. Nous avons tous le pouvoir de devenir vraiment humains et de comprendre que toutes les qualités que nous cherchons dans la vie, si on regarde à l'intérieur de soi-même, on peut les découvrir aussi. La gentillesse, la bienveillance, la compassion, la paix, le désir de faire du bien, le désir de rendre sa vie plus harmonieuse. Hein? Elle est là. Toutes ces choses sont en l'intérieur de nous-mêmes. La grande entrave, c'est que nous croyons à notre mental, nous croyons à nos pensées. Nous y croyons fermes, quelquefois. Vous avez remarqué quand quelqu'un contrecarre vos idées et vos opinions. Hein? Quand quelqu'un vous dit, comme je suis français, je vais dire une chose pour les Français. Je vais dire, les Français sont des abusent de tout. Les Français sont des sensuels grossiers. Je dis, non. Si je suis identifié à mon nationalité française, je vais dire, mais toi aussi, qu'est-ce que tu veux dire par là, etc. Je vais réagir immédiatement. On peut avoir une vision plus objective des choses. Quand on est identifié à soi-même, identifié à ses pensées, identifié à son corps, identifié à ses émotions, identifié à son histoire, immédiatement ça déforme notre vision des choses. C'est pour ça que le Bouddha nous encourage, l'enseignement du Bouddha nous encourage au travers de la méditation telle que vous l'avez faite aujourd'hui, à observer l'illusion complète que ce que vous avez pensé aujourd'hui sera la même chose demain, ou que la réalité que vous avez vécue aujourd'hui va être complètement différente demain. C'est fou le nombre de mondes qui traversent notre esprit en quelques heures. Hein? Quand on regarde soi-même, hein, c'est « Oh, je suis un échec complet », puis ensuite la méditation marche, « Oh, c'est formidable, j'arrive à quelque chose ». Ensuite, on commence à penser à une vieille grogne collant envers quelqu'un qui vous a fait du mal il y a 5 ans, et ça y est, on est reparti dans la douleur et la souffrance, etc. Puis on se rappelle de notre, je ne sais pas moi, d'un moment bénéfique quand on a été avec une personne qu'on aimait, etc. Les mondes surgissent et disparaissent à une vitesse vertigineuse dans la pratique de la méditation. Est-ce que vous avez remarqué? Hein? On s'ennuie un moment, le lendemain, un moment après, ça commence à être intéressant, le monde après, on perd cet intérêt, on commence à s'ennuyer à nouveau. Hein? Donc, plus on voit cette réalité d'impermanence, plus l'esprit s'allège. C'est ça le bonheur, c'est que l'esprit s'allège, en fait. Il commence à avoir un certain sens de l'humour. L'humour est très important. Certains sens de l'humour, on se prend plutôt autant au sérieux. Hein? Et puis il arrive un moment où non seulement on se prend plus au sérieux, mais on ne prend plus les gens au sérieux. Mais le paradoxe, c'est que moins on se prend au sérieux, moins on prend les autres au sérieux, plus on est vraiment responsable de ses actes et de ses paroles. C'est assez extraordinaire, parce qu'on dirait, si je ne prends pas les gens au sérieux, si je ne prends pas au sérieux, ça veut dire que je suis peut-être, irresponsable, quelque part. Mais pas du tout. Plus on se détache, plus on se rapproche des gens, plus je suis détaché de moi-même, plus je me sens responsable de faire du bien à cet être et de le préserver dans son bien-être. Non pas en ayant des béquilles dans tous les sens, quoi, hein, ce qui sont souvent les gens, vous avez remarqué, on a beaucoup de gens qui sont nos béquilles. Hein. Il y a des béquilles négatives, des béquilles positives. Et les béquilles qui entraînent mon esprit dans toutes les sortes d'histoires négatives, et d'autres qui l'entraînent dans toutes sortes d'histoires positives. Hein. Il y a mes amis, et puis il y a mes ennemis quelque part, ce que j'aime pas. Et c'est ça le paradoxe qui est assez extraordinaire, parce que les gens pensent que quand ils se détachent d'eux-mêmes, se détachent de leurs pensées, ils vont être, je ne sais pas moi, ils s'abandonnent en quelque sorte. Et en fait, pas du tout, c'est tout à fait le contraire. Plus on a de perspectives sur soi-même, plus on a de perspectives sur les autres, et plus on devient responsable par rapport à soi-même et les autres. Plus on est, détaché de soi-même, plus on est détaché des autres, plus on se sent responsable d'amener l'amour dans sa vie. D'être une personne qui est compassionnée et qui voit les choses avec un esprit de compassion. Plus la compassion surgit, en quelque sorte. C'est paradoxal. Paradoxal ? Oui, paradoxal. Donc, pour revenir à ces trois obstacles dont j'ai parlé au départ, hein, l'attachement à la vue au travers de la personnalité, la vision des choses au travers de l'attachement à notre personnalité. Ensuite, le deuxième, l'attachement au rite et au rituel. Par exemple, je vous donne l'attachement à mon rite et rituel que j'avais quand j'étais novice. Enfin, dans le bouddhisme, le Bouddha ne parle pas de ça, hein. Il parle vraiment des rites et rituels, c'est-à-dire, c'est souvent expliqué, ce qui est vrai, à l'attachement à ce qui est extérieur à soi-même. Hein, de penser qu'en ayant tel maître, je vais devenir plus illuminé. En ayant telle tradition, je vais être plus illuminé ou plus libéré. En ayant tel enseignement, je vais être libéré. Hein. Non, le Bouddha nous dit, c'est la compréhension par la vision juste des choses qui transformera, qui va vous amener à lâcher prise de l'ignorance, à lâcher prise de ces trois poisons de la convoitise et de la colère. C'est par ce travail-là que l'on peut se libérer. Les choses ne sont que des soutiens, hein, qui peuvent nous garder, hein, qui nous empêche de sombrer dans l'eau, hein, sombrer dans l'océan de l'ignorance, hein, mais ce ne sont que des soutiens. Le véritable travail, c'est le travail intérieur. Alors qu'on ait la robe de nonne ou qu'on soit en jean, hein, ce n'est pas un problème, mais c'est le travail qui compte, c'est ce qu'on fait sur soi-même, c'est la force, le pouvoir, l'énergie que l'on donne à son intérêt, à l'intérêt que l'on a de s'éveiller, de devenir une personne plus sage, je dirais, plus compassionnée. Le troisième, self-doubt, douter de soi. Dans le bouddhisme, on dit que on est à une étape avancée lorsqu'on a une confiance absolue dans les trois refuges. Alors évidemment, je vous donne un enseignement complet là-dessus à nouveau, mais ça serait un peu long, mais quand on a une confiance absolue dans ces trois refuges, c'est-à-dire on n'a aucun doute, que le Bouddha ou l'enseignement du Bouddha est une voie de libération, on n'a aucun doute que le Dhamma ou la vérité qu'il enseigne est une voie de libération, et on n'a aucun doute que le Sangha, hein, est l'assemblée ou la compagnie d'êtres qui nous aident sur le chemin de libération. On n'a aucun doute. Et ce que cela veut dire, c'est que on comprend profondément et sans aucun doute que le chemin est un chemin intérieur qui utilise l'enseignement du Bouddha pour nous amener à la libération. Hein, c'est le Dhamma. Et le Sangha, c'est la famille qui nous entoure, les aides, les êtres qui sont sur la même voie et qui nous accompagne dans ce chemin. Donc quand il parle de self-doubt, c'est un peu dans ce contexte, vous voyez. Mais je vous parlais de l'attachement à un rite et rituel plus mondain. Par exemple, quand j'étais novice au monastère, au premier monastère où j'étais, je ne savais pas que j'avais un attachement très fort à certaines choses. Par exemple, des choses aussi stupides que, une fois dans la cuisine, j'ai vu des gens qui coupaient les oignons, d'une manière complètement différente de la façon dont on coupe les oignons en France. En France, on coupe vraiment en taille fine, comme ça. Enfin, telle que je les avais vues par ma maman, toute petite. Donc c'était un peu précis, étroit, un peu particulier. Et je me souviens que j'étais dans une rage folle à l'idée que les gens les coupent d'une manière différente. Dans la cuisine, j'avais tellement d'idées préconçues et d'attachement à toutes sortes d'idées, au rite et rituel français en quelque sorte, je me souviens, pour canaliser un peu mon esprit dans cet attachement, j'avais décidé de faire un petit mantra. Et mon petit mantra, c'était lâche prise, lâche prise, lâche prise, lâche prise, tous les instants lâche prise. Parce que j'avais tellement d'aversion par rapport à cette personne qui coupait les oignons d'une certaine manière, j'avais tellement d'aversion envers elle que je me disais, si je ne fais pas attention, ça va être dangereux. Vous savez, dans la vie monastique, je vous ai parlé un petit peu de courants de l'esprit et du corps qui sont comme un fleuve, comme ça, et certains étaient là ce matin quand je parlais de... quand on ne pratique pas, on peut sentir que tout va bien, on a le sentiment que tout va bien, c'est tranquille, paisible, un peu comme le Gange à Calcutta, vous savez. Tout est paisible, l'eau est calme, on voit les bateaux, c'est tranquille, etc. Mais si vous allez voir le Gange à sa source, quelque part là-bas, ou bien dans les... Je parlais aussi d'un ruisseau, enfin pas d'un ruisseau, d'un glacier qui tourne en rivière dans les montagnes suisses, où l'eau est tellement puissante qu'elle creuse la terre carrément. Elle creuse le rocher, elle fait des sculptures, etc. Et dans la vie monastique qui est vraiment construite autour de cette discipline monastique, on apprend à comprendre que l'éthique, en fait, les préceptes qu'on enseigne dans le bouddhisme, ce ne sont pas des commandements, mais ce ne sont pas seulement une idée de morale, d'être gentil et tout, et d'être bon, gentil, etc. Mais c'est une façon de permettre à l'énergie de votre esprit d'être beaucoup plus forte et puissante. Parce que quand on n'est pas vraiment dans l'éthique, on se rend compte que tous nos désirs nous font partie dans tous les sens. Ce sont des petits affluents qui enlèvent la force du fleuve, quelque part. Et quand on parle d'éthique, moi en tout cas c'est la façon dont je le comprends dans mon expérience, c'est il y a vraiment ce rassemblement d'énergie. Les gens disent « je suis fatigué, je suis lassé, je suis épuisé, etc. » Essayez de dire non à la vie de temps en temps et vous allez voir la force que vous allez gagner. De dire non à une habitude. Moi, un maître, un enseignant m'avait dit, essaie de dire non une fois par jour à quelque chose que tu veux faire et que tu ne fais pas. Non. Et c'est un truc énergétique quelque part en nous-mêmes. C'est tout à coup, on apprend à, au lieu de se disperser dans toutes sortes de choses, l'esprit se rassemble comme ça. Vous avez remarqué ça? Déjà, dans votre vie? Donc l'éthique, c'est pas seulement être beau, gentil, mignon et sympathique, ou être non ou moine, etc., ou des bouddhistes ou pas bouddhistes, c'est aussi un travail énergétique. Les gens ne s'en rendent pas compte quand on parle d'éthique, ils n'ont pas cette notion que c'est une chose extrêmement vivante, ce travail sur l'éthique. Quand on apprend à réduire nos mensonges, quand on apprend à réduire l'esprit qui exagère, quand on apprend à réduire notre tendance à être critique et méchant et à parler d'une manière négative des gens, nos petits affluents qui enlèvent la force de notre esprit commencent à être bouchés en quelque sorte, en bouche. Mais il est vrai que d'avoir l'éthique au niveau de la parole et au niveau de l'action, n'amène pas toujours une vie particulièrement palpitante. Parce que moi, c'est vrai que j'adorais faire l'humour, j'aime toujours l'humour, mais j'adorais faire des blagues, j'adorais raconter des histoires par rapport aux autres, créer des personnages avec les gens, les critiquer, les transformer en des espèces de personnages très humoristiques, etc. Et il y a un moment, j'ai dû faire la croix en quelque sorte sur ça, parce que je me suis rendu compte que chaque fois que je faisais des blagues par rapport aux gens, c'était toujours à leur... on dit « at their expense », on dit en anglais. À leur... Voilà, à leur dépend, exactement. Et donc, quand on se rend compte qu'on ne veut pas faire du mal aux autres, eh ben voilà, Sundara, humoriste qui faisait rire tout le monde, elle a été obligée de mourir un peu, quoi. Hein? Mais évidemment, c'est le choix, c'est le renoncement à une chose que l'on aime, et le fruit, c'est le désir aussi de ne pas faire du mal aux autres.